Bonjour à toutes et à toutes. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence de Jury Travail. Donc cette webconférence est à destination des RH, des chefs d'entreprise, des élus de CSE et des délégués syndicaux. Et nous allons aborder au cours des 45 prochaines minutes les contrôles de l'inspection du travail et plus particulièrement leur déroulement et les recours qui peuvent être formés suite à ces contrôles. Donc, avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles basés sur l'actualité juridique. Et c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à notre base documentaire qui est très riche. Cette base documentaire comporte des dossiers rédigés dans un langage clair. Cette base documentaire se compose également de modèles de lettres ou de contrats qui peuvent vous faire gagner vraiment un temps très précieux au quotidien. Cet abonnement vous donne également accès à notre plateau de juristes basés à La Rochelle, qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre abonnement en posant votre première question gratuitement à notre équipe de juristes. Jury Travail, c'est donc également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Hacham Pong, avocat au barreau de Montargis, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous.
Bonjour à tous, bonjour Madame Victor. Juste pour me présenter en quelques minutes, hein, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, moi, je suis Steve Achampon, je suis avocat au barreau de Montargis, donc dans le Loiret. J'ai cette particularité d'avoir exercé en entreprise avant de prêter serment. J'ai effectivement exercé au sein de services RH en entreprise. Et donc, j'ai les deux côtés de vision, le côté contentieux de par mon activité actuelle et l'ancien côté plus conseil en entreprise. Voilà.
Très bien, merci beaucoup, Maître. Donc, revenons à notre sujet du jour. Comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition en amont de cette webconférence un formulaire vous permettant de nous poser vos questions sur le sujet. Nous les avons transmises à Maître Hacham Pong, qui va donc y répondre au cours des 45 prochaines minutes. Avant que vous posiez la question par chat, je préfère également vous prévenir que vous recevrez bien évidemment le replay de cette webconférence d'ici un ou deux jours après la webconférence. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, vous avez donc l'onglet de chat qui vous permet de le faire et également l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas et je remercie vivement ma collègue Marine qui est chargée d'animer un petit peu le chat et qui vous orientera vers différents contenus de notre site. Si vous avez besoin de conseils juridiques, maintenant, je vous affiche les coordonnées de Maître Hacham Pong. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Vous avez toutes ces coordonnées sur la slide à l'écran. Nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Donc, toutes les questions que vous nous avez envoyées, pardon, ont été rassemblées sous trois thématiques différentes. D'abord, les missions de l'inspection du travail et le déclenchement des contrôles. Ensuite, le déroulement du contrôle proprement dit. Et enfin, les sanctions et les recours qui peuvent être formés. Donc, commençons par notre première partie sur les missions de l'inspection du travail. Pouvez-vous nous les rappeler, Maître, et nous rappeler également quelles obligations doit respecter un inspecteur du travail?
Alors, s'agissant des missions, effectivement, l'inspecteur du travail, donc il faut savoir que l'inspecteur du travail a une compétence générale en matière d'application de la législation du travail. Donc, il est le garant de l'application des dispositions légales, notamment sur toutes les questions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Toutes ces prérogatives sont issues de la Convention internationale de l'Organisation du travail de 1947. Donc ça date hein, déjà, ratifiée par la France en 1951. Donc ce sont des dispositions qui datent, qui ont été reprises par le Code du travail. Donc la mission première de l'inspection du travail, c'était le garant donc, des conditions de travail et la protection des salariés. Voilà. Faut savoir que l'inspecteur du travail n'est pas juge du contrat. Hein. Cette compétence, et vous le savez tous, j'en doute pas, appartient au Conseil des prud'hommes, sauf dans quelques matières où on va avoir l'intervention effectivement de l'inspection du travail. Je pense notamment à tout ce qui est contrat d'apprentissage, tout ce qui est rupture conventionnelle avec l'homologation obligatoire de l'inspection du travail. Je pense aussi à la rupture des contrats des salariés protégés qui nécessite l'autorisation, bien évidemment, de l'inspection du travail. Donc ça, c'est les missions de l'inspecteur du travail. S'agissant de ses obligations, donc il a la première de ses obligations et la plus importante, selon moi, c'est cette obligation de confidentialité des plaintes qu'il peut recevoir des salariés. Il n'a pas à transmettre les plaintes, il a cette obligation de confidentialité, il doit les traiter. Il a une obligation également de discrétion, de secret professionnel. Ça, c'est très peu connu de tous, mais bien évidemment, le secret professionnel lui est attaché, de sorte que les juridictions ne peuvent pas lui demander de trahir ce secret professionnel. Au demeurant, l'inspecteur du travail doit également s'abstenir de toute prise de position si toutefois il est amené à être questionné par un conseil de prud'homme ou par un quelconque tribunal. Autre obligation qui incombe à l'inspection du travail, c'est cette obligation d'impartialité. Donc, il doit être impartial, que ce soit des demandes de salariés, ça peut être également des demandes d'employeurs. Il doit garder cette position d'impartialité, c'est-à-dire qu'il n'a pas à prendre parti ni pour le salarié ni pour l'employeur. Il est le garant du respect de la loi en entreprise. Voilà. Donc lui, il prend parti quelque part pour la loi et il va être là pour vérifier si la loi est bien appliquée. Enfin, une de ses dernières obligations est pour le coup, la plus importante avec celle de la confidentialité, c'est cette obligation d'informer des suites des plaintes qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va recevoir des plaintes, là je pense aux salariés notamment, il est dans l'obligation d'y répondre, voilà, et de faire connaître sa position sur l'objet de la plainte. Il doit également, effectivement, là je parle de salariés, c'est le cas également pour les représentants du personnel, hein, il doit également, lorsqu'il est saisi sur des questions par les représentants du personnel, il doit également faire état de ses observations. Voilà.
D'accord, très bien, merci beaucoup, maître. Alors, quels peuvent être les différents événements déclencheurs d'un contrôle de l'inspection du travail?
Alors, bon, souvent, quand on pense à contrôle de l'inspection du travail, on pense à tout de suite à une dénonciation de salariés. Il ne faut pas le nier, hein, ça arrive effectivement que les contrôles enclenchés par l'inspection du travail soient liés à des dénonciations de salariés. Mais ça peut être également, et ça arrive souvent, des simples contrôles de routine. D'accord? Donc l'inspection du travail peut, et on le verra tout à l'heure plus en détail, venir effectuer un contrôle sans prévenir l'employeur. Ça peut être un contrôle qui donne suite à un droit d'alerte. Ça peut être un contrôle qui donne suite, comme on l'a vu juste précédemment, à une réclamation provenant d'un membre représentant du personnel de la société.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, sur quel motif et comment les élus de CSE peuvent-ils solliciter donc un contrôle de l'inspection du travail?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'inspecteur du travail, il est là pour garantir la bonne application de la législation du travail au sein de l'entreprise, mais ce n'est pas un juge du contrat. Donc, eu égard aux prérogatives, les membres du CSE, que ça peut également être les membres de la commission santé, sécurité, commission de travail, peuvent solliciter, j'ai envie de dire, l'inspecteur du travail sur toutes les questions qui intéressent, l'hygiène, la sécurité, la santé notamment, les questions en matière d'égalité professionnelle, toutes les questions et toutes les compétences qui sont également les leurs. Hein, ils peuvent solliciter l'inspecteur du travail sur ces matières-là. Voilà. Et au-delà même de ces matières-là, j'ai envie de dire.
Très bien, merci. Alors, nous enchaînons sur notre deuxième partie, donc sur le déroulement du contrôle proprement dit. Et tout d'abord, l'annonce du contrôle. L'inspecteur du travail doit-il prévenir de sa visite et peut-on demander à différer la date du contrôle en cas d'indisponibilité? Là, c'était une question d'un employeur.
Alors, sur il y a plusieurs choses. Donc, la première des choses à savoir, c'est que lorsque, en tant qu'employeur, vous recevez la visite d'un inspecteur du travail de façon inopinée, et il y a droit, quoi. Il a droit de venir faire des visites de routine sans prévenir l'employeur. Donc ça, il faut le savoir. Donc, ils sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure de la journée comme de la nuit, pour faire un contrôle. Donc, ça, c'est la première des informations. Lorsqu'il est présent au sein des locaux de l'entreprise, il doit bien évidemment être muni d'une pièce justificative, se présenter en tant que contrôleur du travail et demander à voir l'employeur ou son représentant. Il y a une exception à cela, c'est qu'il peut, le contrôleur du travail, l'inspecteur du travail, il peut ne pas demander à rencontrer l'employeur ou ce représentant lorsqu'il estime qu'il y a un risque que ça porte préjudice à l'efficacité de son contrôle. Donc, il faut le savoir. Donc, si toutefois, on reviendra sur les cas de recours tout à l'heure, mais si toutefois l'inspecteur du travail se présente dans votre entreprise sans au préalable avoir demandé à rencontrer le chef d'entreprise, il y a droit, mais il faut qu'il puisse le justifier, c'est très important, il puisse le justifier en mettant en avant un risque porté à l'efficacité du contrôle. Donc, je pense notamment à tous les types de contrôles relatifs au travail illégal, bien évidemment, effectivement, on va éviter de prévenir l'employeur s'il y a un fort risque qu'il puisse prévenir les autres salariés qui seraient en situation de travail illégal. Voilà. L'employeur n'a aucune obligation d'accompagner le contrôleur lors de sa visite, mais bien évidemment, en tant que conseil, moi je vous le conseille justement fortement. Il faut accompagner effectivement le contrôleur du travail lors de sa visite et pouvoir répondre à ses questions et lui fournir les documents nécessaires. Mais il faut savoir que vous n'avez pas cette obligation-là.
Alors, dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements, est-ce que tous les établissements de la même entreprise sont visités en même temps ou pas du tout ?
Alors là-dessus, il n'y a pas de règle. Lorsqu'il y a un contrôle, il n'y a pas nécessairement effectivement la visite de l'ensemble des établissements d'une seule et même entreprise. Hein. Le contrôle peut être ciblé sur une entreprise parce qu'il y a des problématiques de santé, de sécurité. À l'inverse, il n'est pas forcé que le contrôle s'exerce sur l'ensemble des établissements et de façon simultanée sur l'ensemble des établissements d'une même entreprise.
Très bien. Alors, une question un petit peu particulière qui nous a été envoyée également et bon, qui est liée aussi à ce que nous avons traversé au cours des deux dernières années et nous avons vu le développement du télétravail. En cas de télétravail, l'inspecteur du travail peut-il demander à accéder au domicile des salariés ?
Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, elle prend tout son sens par les temps qui courent avec le développement du télétravail. Donc, ce télétravail et cet accès au domicile, on peut l'avoir de deux manières. Il y a, ça existe. Il y a le domicile du gérant, par exemple, hein, d'une entreprise qui peut être attenant à son lieu de travail, à l'entreprise elle-même. Il y a cette question effectivement des salariés qui exercent en télétravail. Tout à l'heure, je vous ai dit effectivement que l'inspecteur du travail pouvait, sans prévenir, se présenter sur les lieux de travail. Ce principe connaît une exception, bien évidemment, c'est le respect du domicile privé. Donc, l'inspecteur du travail ne peut pas aller au domicile privé du gérant, quand bien même il se trouve attenant à l'entreprise. Et l'inspecteur du travail, bien évidemment, ne peut pas se rendre au domicile des salariés, puisqu'il y a le respect de ce principe. Simplement, si vous l'y autorisez, il peut totalement, effectivement, il peut totalement accéder à votre domicile privé, mais il doit au préalable avoir reçu votre autorisation.
Très bien. Donc, il peut tout à fait se présenter chez un salarié et le salarié accepte de lui ouvrir sa porte ou non.
Tout à
C'est
fait.
ça. Très bien. Alors, une question qui nous est parvenue également. Quelle personne est légitime pour accueillir et répondre à un inspecteur du travail? Et un inspecteur du travail peut-il demander à parler à des salariés en tête à tête en l'absence de toute personne de la direction ou des RH?
Alors, il faut savoir que lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail se rendent dans les entreprises, ils sont autorisés à interroger soit seuls, soit en présence de témoins ou de l'employeur, l'ensemble des membres du personnel. D'accord? Ils peuvent les interroger sur toutes les matières qui sont relatives à l'application des dispositions légales. Donc, cette audition, puisqu'on peut parler d'audition, donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui est signé par l'agent de contrôle et qui est également signé par la personne entendue. L'agent de contrôle peut également demander à la personne en question, au salarié en question, de justifier de son identité et de son adresse, donc de lui présenter une pièce d'identité. Donc voilà, donc vous voyez que les prérogatives et le champ de contrôle de ces agents est assez large. On verra tout à l'heure que l'employeur, et là encore c'est un conseil que je donne aux employeurs, doit se conformer à ces contrôles et ne pas s'y opposer, que ce soit de façon verbale, écrite ou physique, j'ai envie de dire, puisque, on le verra tout à l'heure, il y a un délit, il y a un délit qui et des sanctions pénales qui sont applicables dans ces cas de figure.
Très bien, merci. Alors, nous allons évoquer un petit peu maintenant les élus du CSE. Doivent-ils être informés qu'un contrôle de l'inspection du travail a lieu dans l'entreprise et quel peut être leur rôle dans le cadre de ce contrôle? Et enfin, puisque c'est manifestement arrivé à certains élus qui sont présents aujourd'hui, de quel recours dispose le CSE qui aurait appris l'existence d'un contrôle du travail, mais a posteriori?
Alors, faut savoir que lorsque l'inspecteur du travail se rend dans l'entreprise à la demande du CSE, dans le monde du CSE, il doit avertir le CSE, qui peut, s'il le désire, le jour du contrôle, bien évidemment, l'accompagner. Donc là, on est dans le cas de figure où c'est une réclamation qui émane des membres du CSE. Lorsque l'inspecteur du travail intervient dans l'entreprise de sa propre initiative, donc comme on l'a pu le voir tout à l'heure, là, à ce moment-là, il peut proposer à des membres du CSE, effectivement, de l'accompagner. D'accord? Lorsque les visites, autre cas de figure, du contrôleur du travail sont prévues à l'avance, puisque ça peut être le cas, Là, le chef d'établissement est dans l'obligation d'en informer les membres du CSE et particulièrement les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Voilà, qui, dans ce cas de figure, peut également, et dans les autres cas de figure également, présenter leurs observations. Donc, la question est de savoir, dans ce dernier cas de figure, si le chef d'entreprise est prévenu de la visite de l'inspection du travail, mais qu'il n'en informe pas les membres du CSE, est-ce qu'éventuellement on peut aller sur le délit d'entrave? Je pense que c'est une possibilité, c'est une possibilité qui s'offre aux membres du CSE. S'il y a une visite qui concerne des prérogatives des membres du CSE et plus en particulier des membres du CSSCT, et que le chef d'entreprise n'a pas prévenu en bonne et due forme ses membres et que la visite se passe et que les membres n'ont pas eu l'occasion d'être prévenus et a fortiori de présenter leurs observations. Donc, l'employeur peut se voir opposer un délit d'entrave au fonctionnement de l'instance.
Très bien, merci beaucoup maître. Alors, quels éléments sont particulièrement regardés lors d'un contrôle? Quels documents peuvent être demandés par l'inspection du travail? Alors, une question qui est intervenue également, que je rajoute un petit peu, c'est y a-t-il une notion de délai de transmission des documents à l'inspecteur du travail? Et que risque-t-on si on est dans l'incapacité de fournir des documents que l'inspecteur nous demande? J'imagine qu'il y a encore certaines entreprises qui ne sont pas dotées de DUER, par exemple, et du coup, ils ne sont pas forcément en position de le montrer à l'inspecteur du travail.
Alors, sur la première partie de question, donc, lorsqu'un inspecteur du travail va se présenter au sein de l'établissement, il va dans un premier temps regarder, et c'est totalement légitime, les affichages obligatoires, le respect des affichages obligatoires. Donc, j'attire votre attention sur quelque chose qui maintenant paraît acquis par tout le monde, mais ce n'est pas forcément le cas dans chaque entreprise. Donc, le respect des affichages obligatoires. Donc, c'est une des premières choses que l'inspecteur du travail va regarder. Il faut savoir, de toute façon, à partir du moment où il est au sein de vos locaux, l'inspecteur du travail peut se voir présenter tous les documents qui sont rendus obligatoires par la réglementation du travail. Donc, quand j'ai tous les documents, c'est tous les documents. La demande de documents va bien évidemment varier en fonction de l'objet même de la visite du contrôleur du travail. Si vous avez une visite sur des questions d'hygiène, de sécurité, ou sur, vous pouvez avoir une visite sur des questions de travail dissimulé. Donc, on va avoir ou sur des visites sur des questions de réglementation de temps de travail. Donc, les documents, les documents demandés ne seront pas forcément les mêmes, les documents ciblés ne seront pas les mêmes, mais en tout état de cause, partez du principe qu'à partir du moment où l'inspecteur du travail est dans vos locaux, il peut être amené à regarder l'ensemble des documents. Donc, ça peut être la déclaration préalable à l'embauche, le registre unique du personnel, les autorisations de travail des salariés étrangers, les contrats de travail à temps partiel, les contrats de mission des travailleurs temporaires, le règlement intérieur, les notes de service, l'ensemble des conventions et accords collectifs, bien évidemment. Il peut regarder tout ce qui est désignation des délégués syndicaux, la communication faite à l'employeur, vérifier que les NAO, la négociation annuelle obligatoire a bien été faite, que la documentation de la négociation, il peut vérifier les informations, les calendriers, il peut vérifier la BDES, tout document permettant également le décompte de la durée individuelle de travail. Donc voilà, c'est un ensemble de panels de documents assez larges que l'inspecteur du travail peut être amené à voir sans que l'employeur puisse lui opposer un quelconque refus. Il peut demander à voir également les bulletins de salaire. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des documents qui doivent lui être présentés sur demande. Il y a des documents qui pourront lui être envoyés plus tard, éventuellement, en fonction des documents. Mais en règle générale, les documents doivent être mis à sa disposition. Concernant l'affichage, on en a parlé tout à l'heure, l'affichage, c'est pas quelque chose qu'on va faire après, c'est quelque chose qui doit être présent. Et si c'est pas présent, l'inspecteur du travail va le constater et le cas échéant, on le verra plus tard, mais dans sa lettre d'observation, il mettra en avant soit un manquement par rapport à l'affichage ou à d'autres documents. Mais voilà, généralement, disons que les documents, dans la grande majorité, doivent être présentés à l'inspecteur du travail lors de sa visite, présentés à sa demande, peuvent lui être envoyés ultérieurement, le cas échéant, et sinon, ça fera l'objet à minima d'une lettre d'observation de sa part. En ce qui concerne les risques à proprement dit, je vous parlais tout à l'heure du délit d'obstacle. Il y a effectivement un délit qui est réprimé par le code pénal et le code du travail. L'employeur est passible d'un an d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende s'il fait obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Donc là, je ne parle pas d'un employeur qui n'a pas un document et qui ne serait pas en mesure de lui présenter. C'est véritablement des cas de figure où on a une réticence de la part de l'employeur pour présenter des documents. Quelques exemples de jurisprudence pour que ça puisse un peu plus vous parler sur ce délit d'obstacle. Il y a le fait de ne pas remettre les documents permettant, par exemple, de vérifier le temps de travail effectif des salariés ou de remettre des documents au complet ou de s'abstenir de fournir des informations complémentaires qui ont été demandées. D'accord. Il y a le fait de s'abstenir d'afficher les horaires de travail malgré plusieurs injonctions. Donc, c'est pas parce que l'inspecteur du travail va se présenter à votre entreprise demain qu'il n'y a pas l'affichage des horaires que vous allez être poursuivi pour délit d'obstacle. Non. Là, dans ce cas de figure, je viens de vous exposer, c'est effectivement, il y a eu plusieurs injonctions et l'employeur n'a pas donné suite à ces injonctions. Donc, il a été condamné également. Il a été condamné pour ce délit d'obstacle. Autre cas de jurisprudence par rapport à ce délit d'obstacle, il y a eu une opposition à l'audition à l'intérieur même de l'établissement de témoins par l'inspecteur du travail. C'est le cas que je vous donnais tout à l'heure où je vous disais que l'inspecteur du travail est en mesure de pouvoir interroger l'ensemble des salariés, s'il le veut, de faire un procès-verbal, de leur demander de justifier de leur identité. Et bien, dans ce cas de figure, on a un employeur qui s'est opposé à cela et qui a été poursuivi, donc est condamné plutôt pour délit d'obstacle. Voilà, donc c'est le risque maximum, j'ai envie de dire, hein, face à des employeurs peu diligents, mais vous n'allez pas être, encore une fois, je tiens à vous rassurer, être poursuivi tout de suite pour délit d'obstacle si il vous manque un document ou s'il y a des choses que l'inspecteur du travail est amené à voir qui ne sont pas en conformité avec la législation. Vous aurez au préalable, soit à minima, une lettre d'observation qui sera rédigée, ou si c'est plus grave, ça peut. Mais on le verra tout à l'heure, je ne vais pas anticiper sur les sanctions.
Oui, très bien. Alors, un petit complément par rapport à des questions du coup qui sont arrivées. Il y a Caroline qui nous demande quels sont les documents qui doivent être obligatoirement sur le site où travaillent les salariés, puisqu'il y a une adresse, j'imagine, du siège social où les salariés ne travaillent pas et qui est donc différente des établissements où travaillent ces salariés. Et ça rejoint également la question de Franck qui demande est-ce que le registre du personnel doit être obligatoirement au sein de l'entreprise ou peut-il être chez le comptable ?
Alors, le registre du personnel, c'est mieux effectivement qu'il soit au sein de l'entreprise. Après, encore une fois, je tiens à rassurer à toutes les personnes qui ont posé des questions, si vous pouvez justifier que tel ou tel document se trouve soit au siège social, soit chez le comptable, dans le cas d'espèce que vous m'exposez, il n'y aura pas de difficulté. L'inspecteur du travail n'est pas là pour verbaliser à tout prix, il n'est pas là pour n'est pas contre un employeur, hein. Il est là pour faire une sorte d'audit des documents obligatoires qui doivent être présents en entreprise. Mais si vous pouvez le justifier par la présence de documents au siège ou chez un comptable, il n'y aura pas de sanction proprement dit. Après, tout ce qui est affichage, les affichages, ça doit être vous ne pouvez pas dire non, mais les affichages se trouvent chez Chaussin. Non. Dans chaque établissement, vous devez avoir les affichages. On doit également avoir une copie des contrats sur site, les notes de service. Voilà, il y a quand même un certain nombre de documents qui doivent être présents au sein même de l'établissement, hein, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement. Je pense aux notes de service, aux contrats des salariés, aux DPE. Après, il y a d'autres documents, effectivement, que s'ils se trouvent chez le comptable ou chez Chaussin, vous pourrez, en tout état de cause, les fournir ultérieurement.
Très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver à l'instant de Yacine. Donc oui, les inspecteurs du travail ont le droit d'établir un questionnaire et de les soumettre aux employés de l'entreprise. C'est bien ça, maître, si j'ai bien
compris. Oui, tout à fait.
Tout à l'heure. Voilà.
Tout à fait.
Et alors, Céline, là, je pense qu'on va avoir du mal à lui répondre. Avez-vous déjà eu connaissance de contrôle de l'inspection du travail sur le bilan à 6 ans des entretiens professionnels? Je crois que j'ai pas vu de jurisprudence passer sur le sujet.
Alors, j'ai pas eu ma connaissance de demande de conseil sur ce point-là. En tout cas, je n'ai pas eu de retour sur ce point-là. Mais c'est quelque chose qui serait, les inspecteurs seraient légitimes effectivement à le contrôler. Hein. Mais je n'ai pas de retour personnel sur ce point-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver, il faut le savoir.
Oui, effectivement. Enfin, il y a des obligations légales à respecter concernant ce bilan professionnel et des sanctions. Donc, potentiellement, il peut y avoir contrôle pour pouvoir appliquer les sanctions.
Tout à fait.
Dernière petite question sur cette partie. Combien de temps dure un contrôle de l'inspection du travail, en gros?
Alors ça, c'est très, c'est très aléatoire. Hein. Ça va dépendre de l'objet même du contrôle. Si c'est un contrôle qui fait suite à une réclamation de salarié ou des IRP, ou si c'est un simple contrôle inopiné, donc il y a déjà l'objet du contrôle et il y a aussi la taille de l'établissement éventuellement à contrôler, le nombre de salariés. Donc ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer 3 ou 4 heures. Ça dépend vraiment de l'objet du contrôle et de la taille de l'établissement en question et du nombre de salariés par ricochet.
Bien sûr. Et oui, on imagine que par exemple en cas de travail dissimulé ou d'emploi de travailleurs sans papier, par exemple, là, oui, ça prend beaucoup plus de temps puisqu'il y a, tous les papiers, tout le contrôle de l'identité de tous les salariés présents sur le chantier. Et ça prend énormément de temps. Alors, abordons donc maintenant notre dernière partie sur la sanction et les recours. Quels sont les différents types de documents qu'un inspecteur du travail remet à l'employeur à l'issue de son contrôle et quel type de sanction peut-il prononcer à l'encontre d'un employeur?
Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'inspecteur du travail, c'est un conseil que je vous donne, c'est pas quelqu'un qui est là pour sanctionner à tout prix. Moi, je préconise le dialogue avec l'inspecteur du travail. C'est souvent l'inspecteur du travail qui nous suit, avec qui on a été amené à traiter d'autres problématiques. Mais il faut toujours, et c'est un conseil que je donne, privilégier le dialogue avec l'inspection du travail. L'inspection du travail, encore une fois, n'est pas l'ennemi de l'employeur. Il est là pour faire respecter les dispositions légales et il s'avère dans les PME ou d'autres sociétés, qu'on n'est pas toujours au fait des dispositions légales. Et la bonne foi de l'employeur sera également appréciée par l'inspecteur du travail. Il n'est pas là pour sanctionner à tout prix. Ça va dépendre bien évidemment du degré, degré entre guillemets, de faute de l'employeur ou du non-respect des dispositions légales. Mais voilà, le dialogue est à privilégier. Donc, l'inspecteur du travail, il faut savoir, le contrôleur du travail, il a une véritable appréciation des suites qu'il va donner en fonction, comme je le disais, de la gravité des circonstances de ces constatations. Le premier moyen dont il dispose, c'est l'observation, c'est la lettre d'observation. Et c'est ce qu'on retrouve en grande partie. Je vous donnerai les chiffres sur 2020 tout à l'heure, mais l'inspecteur du travail, suite à son contrôle, peut être amené à envoyer à l'employeur une lettre d'observation où il va rappeler les dispositions législatives et réglementaires. S'il a été amené effectivement à voir certaines carences de l'employeur en matière, par exemple, d'affichage ou autre, il va faire cette lettre d'observation en éditant les textes de loi, hein, clairement, et en invitant l'employeur à s'y conformer. Le deuxième moyen dont dispose l'inspecteur du travail, c'est la mise en demeure préalable. Cette mise en demeure, on la retrouve notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Donc, la mise en demeure va laisser le temps à l'employeur de se conformer aux dispositions réglementaires ou légales. Donc, l'inspecteur du travail va envoyer cette mise en demeure et va s'assurer de la suite qui sera donnée à cette mise en demeure. Il ne va pas simplement envoyer une mise en demeure, mais il va vérifier que, bien évidemment, et l'employeur devra répondre à cette mise en demeure de façon concrète. Il faut savoir que les mises en demeure peuvent faire l'objet de recours hiérarchiques ou contentieux. Autre moyen dont dispose l'inspecteur du travail, c'est le procès-verbal. On monte dans l'échelle, c'est quelque part des sanctions, donc on a le procès-verbal. Un procès-verbal peut être dressé suite à un contrôle. Le procès-verbal est dressé uniquement lorsqu'une sanction pénale est attachée à une éventuelle infraction. L'inspecteur du travail ne va pas être amené à rédiger des procès-verbaux à tour de bras, ce n'est pas le but, mais lorsqu'il effectivement constate une violation, une disposition légale qui amène une sanction pénale, il peut être amené donc à rédiger ce procès-verbal qui va transmettre d'ailleurs au préfet du département et également au parquet. C'est le parquet qui, suite à ce procès-verbal, va prendre l'initiative ou non des poursuites envers l'employeur. Autre moyen dont dispose le contrôleur du travail, c'est la saisine du président du tribunal judiciaire en référé, en matière de référé. On le trouve, donc, le référé, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est des procédures urgentes qui sont réglées sur 15 jours, un mois, assez des procédures rapides. Hein. Donc, quand cette décision est prise par le contrôleur du travail, c'est parce qu'il estime qu'une décision rapide doit être prise, et c'est pour cette raison qu'il saisit le président du TJ en matière de référé. On retrouve ces cas de figure sur toute la législation sur le travail dominical. La saisine du juge des référés également peut se faire en cas d'atteinte à l'intégrité physique du salarié. Donc, on a beaucoup de jurisprudence là-dessus. Autre moyen d'intervention également de l'inspecteur du travail, c'est les arrêts temporaires de travaux sur les chantiers de bâtiments et travaux publics. Donc voilà, donc là, c'est toutes les questions de risque de chute en hauteur, de retrait d'amiante. Voilà. Donc l'inspecteur du travail, il faut savoir si vous êtes dans ces domaines d'activité-là, peut prescrire l'arrêt temporaire des travaux sur les chantiers. Autre moyen dont dispose l'inspecteur du travail, c'est également l'arrêt temporaire d'activité lié à certaines substances dangereuses. Donc, quand il estime qu'il y a une gravité suffisante liée à des substances dangereuses, il peut prendre la décision d'arrêter temporairement l'activité. Donc, voilà. Donc là, on est encore une fois dans des secteurs d'activité bien circonscrits. Et autre moyen dont dispose l'inspecteur du travail, c'est qu'il peut adresser directement un rapport à la directe, donc l'adresse maintenant, pour que l'adresse prononce une amende administrative. D'accord ? Donc là, on est sur les infractions concernant la réglementation, la santé et la sécurité, tout ce qui est durée de travail, notamment le respect des repos et les salaires. Donc, il faut savoir qu'un des moyens dont dispose l'adresse, pour le coup, c'est les amendes administratives. Ce sont des vraies, véritables amendes qui sont adressées à l'employeur. Donc, l'inspecteur du travail, lui, n'a pas la qualité pour engager les poursuites, on est bien d'accord, c'est lui qui met en œuvre les moyens, mais c'est pas lui qui engage les poursuites. On a le procureur dans le cas des procès-verbaux, on a la directe pour les amendes qui engage les poursuites. Voilà. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres sur 2020, donc ces derniers chiffres dont je dispose, j'avais le premier semestre 2021, mais pour 2020, pour que vous ayez un ordre d'idée, On a eu en tout 200, un peu plus de 200 000 interventions des contrôleurs du travail. D'accord. Sur ces plus de 200 000 interventions, on a eu 147 000 lettres d'observation rédigées. D'accord. 4 000 procès-verbaux, 4 600 mises en demeure et 4 900 arrêts de chantier. Donc, vous voyez bien que la grande majorité des contrôles effectués par les inspecteurs du travail donnent lieu à des lettres d'observation. Voilà. Et enfin, juste pour que vous sachiez, sur les domaines d'intervention de l'inspection du travail, on a plus de 90 000 interventions qui sont liées à la santé et à la sécurité. On a 25 000 interventions qui sont liées à des chutes en hauteur. On a eu 9 000 interventions sur l'égalité professionnelle, plus de 30 000 interventions sur le travail illégal. Donc, on voit bien les prérogatives des domaines d'intervention de l'inspection du travail. Et l'année dernière, en tout cas en 2020, il y a eu 40 000 interventions liées au Covid-19.
Oui, effectivement, ça les a beaucoup occupés, le Covid.
Tout à fait.
Et la ministre était très, très claire pour dire renforcement des contrôles de l'inspection du travail. Il y a eu plusieurs communications du ministère dans ce sens au cours des deux dernières années.
Tout à fait. Et dernièrement, concernant notamment le télétravail, sur le respect du télétravail, donc où la ministre avait demandé effectivement un renforcement des contrôles sur cette question-là.
Oui, tout à fait. Alors, je refais un petit tour sur les questions. Donc, il y a Charlène qui nous demande comment le CSSCT peut-il suivre sans connaître l'objet de la visite. L'employeur n'a pas souhaité nous la communiquer. Ben, l'employeur ne sait pas forcément non plus l'objet de la visite du contrôleur, de l'inspecteur du travail, si je ne m'abuse.
Tout à fait. Si c'est une visite inopinée, de routine, l'employeur n'est pas censé connaître l'objet même de la visite. On est d'accord.
Alors là, une question un peu, très pointue. Une inspectrice du travail s'est présentée de façon inopinée sur un site, sur le site d'une entreprise qui est classée Céveso, donc très haute protection, haute dangerosité de l'entreprise par rapport à l'environnement immédiat. Et dans cette entreprise, il n'y a aucun équipement de protection individuelle. Elle a été reconduite vers la sortie et invitée à se représenter sur site muni de l'équipement. Pardon, je n'avais pas compris la question. C'est l'inspectrice qui n'avait pas d'équipement de protection individuelle. elle a été invitée à se représenter avec l'équipement réglementaire, donc à savoir des bottes, une veste, un casque. Peut-on s'attendre à une sanction ?
Alors là, ma interrogation et ma question retour, c'est de savoir si eux, ils n'avaient pas des équipements
à lui fournir.
À lui fournir, oui.
Oui, et c'est un peu ce que je me disais également. Ah.
Comment ça se passe s'ils ont des ils ont forcément des personnes extérieures qui sont amenées à les voir, même si dans un site classé Céveso, c'est assez
réglementé.
C'est très 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 réglementé, mais bon. Mon interrogation, c'est de savoir si leur obligation de fournir aussi des équipements aux extérieurs.
Il n'y aura pas forcément de sanctions, mais à mon avis, l'inspectrice laissera passer beaucoup moins de choses.
Voilà, disais tout à l'heure, il ne faut pas voir l'inspection du travail sous le prisme des sanctions, mais avant tout sous la forme d'un dialogue. Et là, ça sera à développer, j'ai envie de dire. Il faudra que l'employeur puisse justifier, et il le justifiera facilement, la caractéristique du site et la nécessité d'avoir des équipements propres à ce site. Mais bon, je vois bien l'inspecteur du travail lui opposer le fait qu'on aurait pu lui fournir ses équipements. Et peut-être qu'il y a une obligation là-dessus, sous réserve de vérification.
Pour compléter un petit peu la réponse, les inspecteurs du travail sont tout à fait à même, et c'est particulièrement vrai dans des entreprises Céveso, j'imagine, de procéder à de la collecte d'échantillons pour pouvoir vérifier la dangerosité des matériaux manipulés par les salariés, par exemple.
Tout à fait.
Et vérifier qu'ils sont bien équipés de matériel de protection adéquat. Alors, nous en venons à notre avant-dernière question. Les élus du CSE doivent-ils être informés des sanctions prises par l'inspection du travail contre leur employeur ?
Alors, effectivement, lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une des obligations qui incombe à l'inspection du travail, c'est d'informer des suites des plaintes. Donc, forcément, lorsque ces réclamations, ces plaintes proviennent des membres du CSE, l'inspecteur du travail a l'obligation, bien évidemment, de les informer. Et de façon générale, au-delà des plaintes qui peuvent provenir des membres du CSE, en vertu de l'obligation d'information et consultation du CSE sur certains domaines, l'employeur doit informer effectivement les membres du CSE sur les éventuelles sanctions prises par l'inspection du travail.
Très bien. Alors, après avoir dresser une liste exhaustive des sanctions encourues. Quels sont les différents types de recours possibles après une sanction de l'inspection du travail ?
Alors, deux types de recours. Donc, on va avoir le recours administratif. Donc, après, avec deux types de recours au sein du recours administratif et le recours contentieux. Donc, s'agissant du recours administratif, et d'abord, c'est comme les actes provenant d'une administration, il y a un recours gracieux, donc auprès de l'administration elle-même. Donc, il faut savoir que lorsque vous faites un recours gracieux, l'administration dispose d'un délai de 2 mois pour statuer. Passé ce délai, son silence vaut décision implicite de rejet. On a également le recours hiérarchique. Donc là, on va s'adresser au supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail. En l'occurrence, ça va être un recours dirigé contre le ministre chargé du travail. Donc ce recours doit être exercé dans les 2 mois à compter de la réception de la notification. Donc, et le ministre dispose également de 2 mois pour statuer sur le bien fondé ou non de ce recours. Ce délai est porté à 4 mois dans le cadre des décisions de l'inspecteur du travail en matière de salariés protégés. S'agissant du deuxième type de recours, on a le recours contentieux. Donc là, on va s'adresser directement à la juridiction administrative pour demander l'annulation de la décision administrative. Il faut savoir que ce recours contentieux, il n'est pas ouvert. On ne peut pas l'exercer. Moi, je conseille d'exercer sous les formes prescrites, bien évidemment, par la loi. Ce n'est pas parce qu'on a la possibilité de faire un recours contentieux qu'on va foncer directement voir le juge administratif en faisant ce recours. Donc, différents cas d'ouverture du recours contentieux, on a l'incompétence de l'auteur de la décision, si on a des éléments prouvant à son incompétence. On a un éventuel vice de forme ou vice de procédure. On a éventuellement une violation de la loi. Ça, c'est un autre cas d'ouverture de recours. On a l'erreur de droit. Voilà, on a l'erreur manifeste d'appréciation, autre cas d'ouverture du recours, où on a enfin le détournement de pouvoir ou de procédure. Donc là, vous voyez bien que ce sont des cas de recours qui nécessitent des connaissances juridiques approfondies pour pouvoir contester sur le fondement de base légale solide la décision prise par l'inspection du travail. Voilà, donc les délais de recours contentieux sont de 2 mois également à compter de la notification de la décision.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces explications. Donc, j'espère que ce format vous a plu. On arrive en effet au terme de notre webconférence. On a 5 petites minutes de retard, donc pas trop, ça va encore. Et donc, je vous retransmets les coordonnées de Maître Hacham Pong afin que vous puissiez le contacter si vous aviez besoin de conseils juridiques sur le sujet. Alors, comme vous le savez sans doute, enfin pour ceux qui nous connaissent depuis un petit moment, on aime s'assurer de votre satisfaction. Et donc, Marine est actuellement en train de vous transmettre un lien qui pourra vous permettre de nous donner votre avis sur la webconférence. Et c'est très précieux pour moi puisque j'en tiens toujours compte pour adapter un petit peu les formats par rapport à vos attentes. Alors, si vous avez encore des questions ou si d'ici quelques jours, une question vous venait à l'esprit, et je m'adresse aussi aux internautes qui ont posé des questions qui n'étaient malheureusement pas tout à fait dans le thème du jour. Donc, n'hésitez pas à la poser à notre équipe de juristes. Comme je vous le disais, vous avez la possibilité de tester la qualité de notre abonnement en posant gratuitement votre première question à notre équipe de juristes. Et Marine vous transmet actuellement le lien dans la fenêtre de chat. Pour tous les élus de CSE et les délégués syndicaux et représentants du personnel, tous les types de représentants du personnel sont vraiment les bienvenus. J'anime également un groupe privé sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'idée, c'est de créer une communauté vraiment de représentants du personnel, un lieu d'échange autour de toutes nos problématiques de représentants du personnel. Donc, c'est un groupe très bienveillant et qui attend votre inscription avec impatience. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Enfin, donc je vous donne rendez-vous pour nos deux prochaines webconférences du mois de mars. Elles auront toutes les lieu en mars. Donc la prochaine aura lieu le mardi 15 mars à 14h. Nous aurons l'occasion de retrouver Maître Fawaz qui animait la précédente webconférence. Nous allons vous aider à préparer votre liasse fiscale. Les déclarations sont à faire pour début mai, donc on a pris un petit peu de marge pour vous donner les conseils un petit peu en amont de la préparation de la liasse fiscale proprement dite. Donc, elle s'adressera cette fois-ci plus particulièrement aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, aux responsables administratifs et financiers des entreprises. Donc, là encore, Marine vous transmet le lien par chat. Et donc, pour notre dernière webconférence du mois de mars, nous allons retrouver une thématique droit social. Puisque nous aborderons la santé et la sécurité au travail, nous évoquerons donc les obligations de l'employeur et le rôle du CSE sur ces deux thématiques. Donc, j'ai vu entre autres des questions qui passaient sur le DUER tout à l'heure. N'hésitez pas à vous inscrire, il en sera forcément question lors de cette webconférence. Et donc, pour chacune de ces webconférences, n'hésitez vraiment pas à nous faire parvenir vos questions, puisque c'est ce qui me permet de faire vraiment un contenu adapté à vos problématiques du moment. Donc, merci encore, Maître Hacham Pong, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi, et j'espère à très bientôt.
À très bientôt, merci à vous, merci à tous.
Et merci à tous d'être venus assister à cette webconférence. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Au revoir.